donne la parole au professeur Pierre Avril.
Bien, je vous remercie. C'est une très bonne idée. Les éditions Panthéon-Assas sont dues de rééditer ces écrits et ces articles de Georges Bordeaux, dont je connaissais bien sûr un certain nombre, dont j'en ai dit d'autres. En particulier, Jean-Marie Danquin y a fait allusion. J'étais un lecteur tout à fait assidu des comptes rendus qu'il publiait dans la revue Critique, parce que moi-même je faisais des comptes rendus plus légers à la Quinzaine littéraire, que nous échangions un peu de cette manière nos regards sur les publications de politique, d'institutions. Bien entendu, parmi ces articles, il y en a un certain nombre qui m'étaient familiers. Armel de Duvlec a évoqué la contribution au mélange Achille Mestre que j'avais exhumé il y a une vingtaine d'années quand je m'interrogeais sur une revanche du droit constitutionnel. Il y a bien sûr les articles à la revue française de sciences politiques et également cette conférence à Louvain de 1960, Carmel de Duplec m'avait fait connaître, et qui donne un éclairage supplémentaire sur la démarche, la réflexion de Georges Bordeaux devant la Ve République. Alors, cela dit, je n'ai l'intention que de considérer un aspect très particulier, très limité de cette œuvre immense, et y compris immense pour ce qui est des publications reprises dans ce volume, en pensant que chaque génération, je ne dirais pas s'affronte à celle qui l'a précédée, car elle en est tributaire, mais essaye de le prendre d'une certaine manière, sinon le contre-pied, tout au moins prendre ses distances pour essayer de réévaluer ce qu'a apporté un auteur, et cet apport est si considérable pour le cas de Georges Bordeaux que je n'avais que l'embarras du choix, pourquoi je me suis tenu à considérer, à évoquer quelques observations que m'ont inspiré les textes qui sont ici réunis et concernant la démarche qui est la sienne et qui m'a paru tout à fait significative et en même temps caractéristique d'une époque qui avait été marquée par cette espèce de désenchantement devant la, comment dirais-je, devant la faiblesse, la survivance, la plus grande aussi de la Constitution. Et cette démarche me semble caractérisée par une opposition systématique, comme une espèce de matrice de sa pensée, entre le droit et le fait. Alors, cette distinction du droit et du fait, bien entendu, est familière. Elle était très marquée chez son maître Karel Malvert. Mais à la différence de Karel Malvert, et c'est la grande originalité de Georges Bordeaux, à la différence de Karel Malvert, il attache une importance aussi considérable, sinon davantage, au fait. Et il ne le rejette pas dans les ténèbres extérieures, mais il le considère avec une particulière attention. Et je dirais même qu'il lui fait jouer un rôle critique, un rôle politique, pas polémique, en se livrant à ce que l'on n'appelait pas encore une déconstruction des notions les plus acquises, les plus admises, qu'il livrait à une observation assez dévastatrice et emblématique, pour reprendre le mot opposition du droit et du fait, et l'opposition, parce que c'est le même courant que l'on évoque spontanément, entre l'homme situé et le citoyen abstrait. Cette opposition tient une place majeure dans sa démarche. Elle a inspiré un certain nombre de couples qui nous sont familiers et qui ont, ça a commencé par la réflexion sur la notion de peuple, où il oppose le peuple homogène des citoyens à la foule bigarrée, constitue un peuple. Et cela s'est prolongé dans la même réflexion par la distinction qui a d'abord été qualifiée de démocratie classique et de démocratie sociale, et qui est devenue ensuite la démocratie gouvernée et la démocratie gouvernante, notion qui sont passées dans le vocabulaire actuel, dans le concept auquel on se réfère tout à fait spontanément, lorsqu'on a évoqué les questions qui entrent en l'air, et qui a abouti également, c'est là où je voulais en venir, qui a abouti également à cette analyse si originale, si profonde, à l'égard de la Constitution de 1958. Et car la distinction, l'opposition entre l'homme situé, l'individu situé, avec toutes ses différences, ses particularités, et le citoyen abstrait, elle est au cœur de l'analyse qu'il présente de la Constitution de 1958 dans l'article célèbre de la Revue française de sciences politiques. Dans cet article, je le cite, il dit « La Constitution ne choisit pas entre le citoyen et l'homme situé, et pas davantage elle n'utilise les ressources de la rhétorique pour tenter entre eux une réconciliation verbale, plus simplement et avec un réalisme plus courageux, les deux figures du peuple, elles dégagent un double pouvoir, celui de l'État ou de la République, et qui s'adosse à la nation des citoyens, celui de la démocratie qui exprime les exigences du peuple entendu comme réalité sociologique. Et incontestablement, cette analyse de la Constitution de 1958 en faisait ressortir l'originalité marquée très fortement la rupture qu'elle introduisait dans nos institutions. Et cet article développé entre le pouvoir d'État incarné par le président de la République et le pouvoir du peuple, le pouvoir du peuple bigarré, c'est-à-dire le pouvoir démocratique, qui gouverne. Je le cite encore, c'est après avoir évoqué le président de la République, l'article 5. L'arbitrage en soi. Il poursuit que le pouvoir qui procède du suffrage universel direct, à l'expression duquel concourent les partis politiques, article 4, c'est le pouvoir démocratique qui gouverne. Alors, c'est là où va se produire une évolution dans son analyse et dans sa pensée, et car l'année suivante, cet article de 1959, il réagissait au texte, et puis en 1960, le texte a été appliqué. Et à ce moment-là, il revient, dans cette conférence à Louvain, il revient et il écrit que La réalité se rebelle à ce partage entre le pouvoir d'État et le pouvoir démocratique. La réalité se rebelle et par la force des choses, le gouvernement, normalement était l'expression de la diversité, ce gouvernement était voué à être l'instrument du chef de l'État à devenir un cabinet présidentiel. Et la réalité se rebelle. Alors, certainement, lorsqu'il a analysé dans l'article de 1959 le texte de la Constitution, Georges Bionneau a été marqué par ce qui était effectivement une inspiration, ce qui était une inspiration originelle, peut-être avec des arrière-pensées, même certainement avec des arrière-pensées, je reviendrai, mais qui en tout cas offrait une présentation, comment dirais-je, très frappante de l'originalité de la Constitution. Et l'aboutissement, un an plus tard, l'aboutissement, c'est que le pouvoir d'État ne pouvait pas ne pas être tout le pouvoir. Bon, l'analyse reflétait l'évolution même qui était perceptible de ce moment-là, mais ça pose une question sur le fondement de ce partage et de l'enseignement qui en est tiré, car le pouvoir d'État, incarné par le président de la République, 2 ans plus tard, en 1962, va être désigné par le suffrage universel. Le suffrage universel, donc, il avait dit, qu'il inspire sa diversité, qu'il inspirait, qui était à la base du gouvernement face au pouvoir d'État. Alors, à ce moment-là, on se demande, on s'interroge, et on se dit, ce suffrage universel, est-ce, conformément à l'analyse du pouvoir d'État, l'ensemble des citoyens abstraits, dans leur homogénéité, ou est-ce, comme c'était le cas pour l'élection des députés, est-ce la foule bigarrée qui caractérise ce suffrage universel? Bref, et il y en a à l'épreuve des faits et dans les textes mêmes de Georges Bionneau, une question, je dirais, une interrogation sur la pertinence, ou plutôt sur pas la pertinence, mais plutôt la formulation de cette opposition entre l'homme situé et le citoyen abstrait. Incontestablement, et tout le monde, enfin, distinction, encore une fois, est classique, est passée dans nos usages. Et encore une fois, cette distinction, elle parle, elle révèle quelque chose de réel, de véritable. Mais quant à la méthode qui est utilisée, elle révèle une difficulté. Car elle confronte deux catégories hétérogènes. D'une part, le citoyen qui relève du devoir-être, du droit, et d'autre part, l'homme situé qui relève de l'observation, de la réalité. Mais l'homme situé appartient à une catégorie, disons, de nature sociologique. Mais est-elle réellement sociologique? est réellement sociologique dans la mesure où ces hommes situés, tels que présente Georges Clouseau, peut-il se réduire à ses caractéristiques socio-professionnelles, à un lieu, une histoire particulière, bref, un ensemble qui le distingue du citoyen abstrait, qui, comme le disait Sieyès, est celui qui se définit par ce qui est commun à tous les Français, l'homme situé apparaît comme une antithèse fabriquée à laquelle on rattache tout ce qui a été enlevé à l'homme, au citoyen abstrait, et qui apparaît finalement aussi abstraite dans son genre que l'est l'homme situé, que l'est le citoyen. Et c'est là une question qui est cruciale, parce que pour un auteur aussi soucieux de réalisme, aussi attentif à mettre en relief ce qui dans la réalité contredit le droit. En réalité, l'homme situé et le citoyen abstrait, c'est le même électeur. C'est le même électeur et qui est réuni en lui ces deux faces contradictoires en apparence, mais que l'analyse ne devrait pas opposer, mais plutôt articuler. Comme d'ailleurs, le font empiriquement les programmes politiques qui s'efforcent de réunir des aspirations extrêmement diverses pour formuler une politique générale. La science politique américaine, à cet égard, avait bien sa version fonctionnaliste, avait bien marqué cette différence lorsqu'elle parle de la fonction d'agrégation des partis politiques, qui consiste à essayer de réunir le maximum d'intérêts en les rendant compatibles, en les faisant concourir vers un même but, fonction d'agrégation qui est fondamentalement distincte de la fonction d'expression des intérêts qui appartient au groupe d'intérêts, qui appartient au syndicat et qui relève donc d'une autre catégorie. C'est cette opposition qui se révèle en quelque sorte lorsque on revient sur les deux articles de 1959 et de 1960, en les prolongeant en 1962 et en arrivant au suffrage universel, ce suffrage universel du président de la République. C'est à la fois le citoyen abstrait, bien sûr, c'est à cela que s'adresse évidemment le général de Gaulle, mais ce sont aussi des hommes situés. Et la vérité se trouve dans cette conciliation plus que dans cette opposition. Et puis d'autre part, la vérité de la Constitution. La vérité de la Constitution est-elle dans le texte? Il me semble qu'à cet égard, nous avons, à l'expérience, nous avons pas mal évolué dans la façon dont nous considérons une Constitution pour cette génération. Pour cette génération, la Constitution devait permettre de déduire le régime qui en résulterait. En lisant la Constitution, il le dit d'ailleurs dans une survivance, une notion de Constitution. Et c'est précisément parce que les constitutions ne permettaient plus de déduire le régime concret qui allait s'établir sous leur empire, théoriquement. Et en fait, j'ai l'impression que là, c'est Constitution est un texte politique. Et c'est un texte politique issu de compromis et de compromis que Carl Schmitt qualifiait de dilatoire, précisément en évoquant les lois de 1875, ce qui était vrai aussi de la Constitution de 1958, à savoir un compromis qui était verbal, qui était un compromis qui permettait de réunir l'adhésion d'une majorité, d'une large majorité, mais qui recelait, qui dissimulait consciemment ou inconsciemment des arrière-pensées totalement contradictoires. Et si l'on s'était mis d'accord sur le texte, on s'en remettait de part et d'autre à l'application qui en serait faite de trancher entre ces points de vue, entre ces arrière-pensées, de telle sorte que dans ce domaine tout particulièrement, c'est vrai de 58 comme c'était vrai de la Troisième République, moins sans doute de la Quatrième, de telle sorte que le fait que la pratique telle qu'elle va s'imposer, le fait de cette pratique va déterminer finalement le contenu du droit. L'on n'a pas été en mesure d'arrêter au moment où l'on rédigeait la Constitution. Cela me conduit, je termine cette observation, par rapport à la démarche, par rapport à cette méthode d'opposition du droit et du fait, qui est très stimulante parce qu'elle nous interpelle, comme on dit, et qu'elle nous oblige à reconsidérer les notions d'actualité, les idées orthodoxes, disons. Cette opposition du droit et du fait, elle doit être nuancée et doit être traitée autrement. Il faut, en d'autres termes, relativiser le droit, puisqu'il est souvent largement, sinon fondamentalement, déterminé par la pratique. Et comme corollaire, juridiciser la pratique, parce que celle-ci s'exerce dans un cadre qui a été fixé par le droit. En d'autres termes, il faut tenter, et c'est la conclusion que m'inspire ce retour sur un grand esprit, et il faut tenter de penser ensemble dans le même langage des réalités qui, à première vue, apparaissent irréductibles, et je dirais que c'est probablement l'un des objets du droit politique. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Vous nous montrez magnifiquement que la pensée de Burdeau mérite non seulement qu'on se penche à nouveau sur elle, et qu'elle est aussi, non pas seulement un regard dans le rétroviseur de la pensée, mais une occasion stimulante de continuer à réfléchir à nos problématiques toujours actuelles et contemporaines. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y aura matière à réaction sur ce, non pas cette coupe infernale, mais enfin cette matrice de la pensée de Burdeau qui n'est pas sans poser des difficultés. Toutefois, je ne vais pas engager à ce stade ce débat. Je vais d'abord donner la parole à M. Bruno Daugeron.